chance qu'on sème. Bienvenue à Une chance qu'on sème. Je m'appelle Pierre Lecaud et je suis toujours et encore en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
PA, je suis très content de présenter l'épisode qui s'en vient parce que on sort de la pandémie, on peut enfin se rapprocher les uns des autres. Puis c'est ça qu'on a fait pour Denis Lafrance. On est allé tourner avec lui, chez lui, tout près de son jardin, dans la nature, avec les oiseaux, le vent, tout ça. C'était vraiment un bel après-midi.
C'était tout un défi parce que le son est important quand on fait un podcast. Puis là, ben il y avait du vent cet après-midi-là, des camions, des tracteurs qui passaient en arrière. Mais moi, je suis content aussi qu'on soit gâtés puis qu'on ait tourné au moins un, voire deux épisodes avec Denis à l'extérieur dans un jardin. Ça fait du bien, là.
Oui, parce que ça a tellement été une rencontre là, inspirante puis riche. Là, t'sais, ce gars-là, il a enseigné pendant 40 ans l'agriculture biologique, si c'est pas plus. Fait qu'il y en a du stock à dire, puis c'est un communicateur, hein.
Oui, puis Denis, c'est une encyclopédie vivante sur deux pattes qui a une culture débordante sur plein d'affaires. C'est probablement le gars qui avait la plus grosse collection de CD ou ce qu'il y avait du Wagner à côté du Wu-Tang, mettons, dans ses disques. Fait que tu sais, il y a de quoi à dire. Puis quand tu pèses sur le piton plé, là, il part. Puis je l'ai souvent dit pour certains invités cette année, on aurait pu les laisser parler pendant 1 heure. Mais je pense que Denis, on aurait pu le laisser parler pendant 40 heures sans rien dire. Fait que vous allez voir qu'on est un petit peu plus effacé puis qu'on lui laisse la parole. Puis c'est vraiment enrichissant tout ce qu'il avait à nous transmettre comme connaissance, là.
Tout ça pour dire qu'on a fait 2 épisodes avec lui. Celui-ci, c'est le premier. Où est-ce qu'on va surtout parler du bio en général? On n'est pas dans le jardinage, puis Denis, lui, s'attendait à parler de jardinage, mais moi, personnellement, ça m'a tellement passionné tout ce qu'il avait à dire sur le bio, puis je pense que nos auditeurs qui jardinent sont aussi intéressés par le bio, hein, je l'espère du moins. Fait que puis c'est plein de mythes, de fausses croyances, là, le monde du bio, puis lui, il a vraiment un regard lucide, tu sais, il est pas... comment je pourrais dire ça? Il est vraiment lucide, il garde quand même un esprit critique là, face au bio, même s'il en a fait sa vie.
Oui, tout à fait. Puis quand tu as commencé à lui poser les questions, j'ai vu à quel point tu étais intéressé par cette espèce d'historique-là du bio au Québec. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas toute l'histoire qui est derrière. Puis Denis, il transmet beaucoup aussi son savoir au niveau de la science agronomique. On n'est vraiment pas dans les croyances, puis il continue encore et encore aujourd'hui à acquérir des connaissances, puis beaucoup à les transférer également. Fait que, écoute, c'était génial d'avoir cette espèce de portrait-là qui joint finalement le jardinage avec l'agriculture bio, l'agriculture de proximité, puis je pense que c'est des intérêts tout à fait communs ou tout à fait connexes, là.
Bon, alors écoutons-le, Denis, et sa première entrevue sur le bio. Bonne écoute. Mais avant... Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on sème. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. À chaque année, je suis trop large pour désherber. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermiersdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno, là. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille. De Montréal à Moncton, en passant par le Lac-Saint-Jean et Ottawa, tu vas pouvoir manger une salade de concombre anglais avec des échalotes françaises.
C'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde sème.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal, 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça. Ça a un SAQ de 332.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 332, c'est aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Non, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool.
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates. Hey, on est ensemble.
Ouais.
C'est un de nos premiers épisodes où est-ce qu'on se regarde dans le blanc des yeux, puis qu'on est dans un jardin en plus pour enregistrer. Merci, Denis, de nous recevoir.
Ça fait plaisir.
PA, présente-nous, Denis. Moi, on se connaît pas. C'est la deuxième fois qu'on se voit, Denis, puis moi. Puis toi, tu le connais pas mal.
Ben oui, ben Denis Lafrance, écoute, je le connais depuis, je pense que c'est en 2009 que j'avais fait un peu plus ta connaissance quand on avait été en Californie avec un groupe visiter des fermes biologiques. Un voyage qui a marqué beaucoup de ses participants. Puis depuis ce temps-là, Denis a fini par me recruter pour devenir prof au Cégep, qu'on appelle maintenant l'Institut national d'agriculture bio. Parce qu'à chaque fois qu'on se parlait au téléphone, Denis était dans une chaise dans le chairlift à Gleason. Puis il me disait, j'ai deux minutes de te parler, règle-moi ça, puis après, moi, je fais ma descente. Puis je dis, ben moi, j'aimerais ça faire une carrière de même. Fait que j'ai pris mes clics, mes claques, j'ai lâché la...
Fait que t'es devenu professeur d'agriculture biologique par passion du snowboard.
T'as tout compris, okay. C'est ça. Puis là, ben...
Puis moi, j'ai flashé mon cellulaire. Fait que personne m'achale dans le monde pente.
Puis Denis, ben là, c'est ça, en blague, des fois, je l'appelle numéro 1, parce qu'en termes d'ancienneté, c'est notre plus ancien. Moi, je suis rendu numéro 6, tu sais, fait que ça peut situer un peu les auditeurs sur l'échelle de temps. Fait que les cheveux grisonnent, mais Denis, lui, c'est bien blanc, là.
Puis toi, Denis, à part d'enseigner, as-tu eu d'autres activités professionnelles dans l'agriculture bio?
Bien, j'ai commencé en agriculture biologique en 1973. Au début, j'ai cherché une ferme. Je me suis mis à la lecture. J'avais passé à peu près 10 ans de mon enfance dans le jardin de mon père à apprendre à cultiver puis à vendre en vélo de porte en porte. Là. Puis mon père m'avait montré à cultiver. Et puis, en 1973, j'ai décidé de me lancer en culture biologique. En 1975, j'ai décidé que je deviendrais enseignant. Alors, puis en me disant, il faut que je fasse un bon mix entre la pratique et les connaissances théoriques, disons, là. J'ai toujours comme beaucoup travaillé à trouver, à me tenir à jour par rapport aux informations, puis j'ai toujours travailler avec des activités pratiques pour être capable de vraiment, là, notamment, j'ai ma principale activité dans ma carrière, c'était d'enseigner à des agriculteurs et des agricultrices. Puis là, bien, constamment confronté à des problèmes pratiques terrain, là. Donc, j'ai beaucoup travaillé à essayer d'avoir des compétences dans ce domaine-là. J'ai été agriculteur pour comme me donner un meilleur bagage là, pour enseigner, puis j'ai beaucoup enseigné sur le terrain. Donc, j'ai fait aussi un peu de recherche, je me décris pas comme un chercheur. J'ai fondé le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité avec mon collègue Serge Préfontaine.
Le CETAB.
Le CETAB, qui est une composante du cégep de Victoriaville, qui a à peu près une quarantaine d'employés l'été, là, 30-quelques employés à l'année, des gens qui font du service conseil, des gens qui font de la recherche appliquée. On a aussi un mandat de diffusion d'informations. Donc, et j'interviens bien, en enseignement aux adultes. Je n'ai plus de charge d'enseignement régulier au cégep. Et je fais aussi beaucoup de coaching de jeunes chercheurs, de jeunes et moins jeunes conseillers qui viennent me demander de l'aide. Donc, je fais beaucoup de coaching, puis je travaille sur une variété de projets, là, des projets de recherche, des projets de diffusion. Souvent, j'arrive avec des idées, puis après ça, bien, ça va être un jeune, on va monter un projet, puis ça va être un jeune chargé de projet qui va prendre le projet en charge. Mais au cégep, à travers les années, j'ai développé une relation de travail avec les agriculteurs biologiques au Québec. Et puis, donc, avec des cours de formation continue en commençant en 88, avec beaucoup de voyages d'études aussi, peut-être une trentaine de conférences qu'on a organisées avec des experts invités qui sont venus donner des conférences. C'est comme ça que le cégep a développé une relation de travail avec les agriculteurs biologiques. Le CETAB, c'est un peu comme un prolongement de cette activité-là qui existe depuis 35 ans au cégep de Victo. Là.
Puis quand tu étais agriculteur, tu étais maraîcher?
Oui, j'étais sur une ferme comme dans un village communautaire. Donc, il y avait aussi des gens qui élevaient des animaux qui produisaient des œufs, du fromage, de la viande. Et puis moi, je m'occupais de la culture maraîchère. On avait un petit peu de fruits, puis... De la culture maraîchère. On a même été parmi les premiers à partir des paniers là, hebdomadaires et des premiers à lâcher parce qu'on était comme ben, on avait 22 clients sur 200 km de circuit. Là, c'était comme. On était comme un peu en avant de notre temps. Là.
Un village communautaire, c'est...
Ben,
c'est
aujourd'hui, ils appellent ça un éco-village.
Ah, OK. Ouais. Une commune.
Pas vraiment, parce que ben, il y a eu une époque où c'était une commune, mais ça n'a pas duré longtemps. Un village communautaire, ben l'économie familiale, c'était privé, puis la maison familiale, c'était privé. Là. Fait que c'était pas vraiment une commune. Donc chacun était responsable de son argent. Puis, mais sinon, il y avait comme... 450 acres de terre en propriété d'une corporation sans but lucratif, puis une gestion collective par consensus. Puis,
quelques maisons
là. Ça existe encore. Oui, bien, il devait avoir. On devait à peu près 45 là, dans les années 80. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de monde qu'il y a là. Là il y a les plateaux de l'Anse-Saint-Jean. Et puis, il y a quelqu'un qui est parti en maraîchage il y a 4-5 ans. Là, je suis allé visiter cet été. Ils ont à peu près un hectare de culture maraîchère et fruitière bio. Là.
Fait que il y a une certaine autosuffisance là, communautaire, là, alimentaire.
Non, c'est des maraîchers qui vendent à des clients. Là. Il y a un certain nombre de personnes qui ont leur jardin à côté de leur maison. Sinon, la ferme, elle sert surtout comme pour des chevaux, pour un centre équestre.
Ah ouais, OK.
Oui, il doit avoir 12-15 chevaux là, pour la randonnée. Là. Okay. Non, ils ont leurs chevaux
okay. Pour
la randonnée d'hiver et d'été. Fait que c'est ça a été longtemps la seule activité plutôt agricole, mais c'est des chevaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mettre une terre en condition. Là, mais là, les gens qui cultivent des légumes gardent des animaux, ils ont du fumier, fait que... je suis allé il y a quelques semaines, là, puis c'est intéressant. Là, ça s'appelle Les Jardins d'en haut, je pense, que le okay. nom de la ferme. Là.
Je ne connais pas.
Fait que c'est ça. Ils vendent principalement au panier, puis un kiosque
libre-service
sur le bord de la route en bas. Là.
Fait que tu travailles presque exclusivement avec des producteurs bio?
Je dirais, dans ma carrière, j'ai beaucoup enseigné à des gens qui étaient... Tu sais, dans les années 80, là, des producteurs, des fermes bio, ils n'avaient pas tant que ça. Là. Donc, j'ai beaucoup enseigné à des gens qui voulaient s'informer c'est quoi le bio, comment on fait du bio. Puis, on verra après les cours si on décide d'y aller en bio ou non. Fait que j'ai enseigné à beaucoup de gens qui n'ont jamais passé en bio. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont passé en bio. Fait que, tu sais, j'ai enseigné à des gens qui ont fait la transition bio suite à des cours qu'ils ont fait avec moi dans les années 80. Là, ça fait presque, je pense, l'année prochaine, ça fait 45 ans que j'ai commencé à enseigner. Là.
Mais tu fais partie de ceux qui faisaient du bio avant qu'il y ait le label bio puis que ça soit,
que ça soit
contrôlé,
certifié,
normé,
ou,
c'est ça. Puis c'était pas populaire et connu comme celle-là
non,
aujourd'hui.
J'étais parmi les pionniers, là, puis j'ai décidé d'enseigner pour former ceux qui voulaient en faire. Parce que, je dirais, mon engagement, c'était plutôt genre activiste au départ, disons. Là.
Ouais.
Et puis, j'ai jamais étudié en agronomie, notamment parce que les contacts que j'ai eu à l'université, il y avait tellement d'hostilité contre le bio que je me voyais pas comme... j'avais déjà un bac spécialisé dans mon jeune temps, dans un autre domaine. Je me voyais pas retourner à l'université puis m'assassiner avec des profs pendant des années parce que les profs pro-bio, ils n'avaient pas, là. Ils étaient presque tous hostiles, là. Activement hostile. Là,
ouais.
Fait que pas toutes, là, mais il y avait beaucoup d'hostilité à l'université. Il y en a encore d'ailleurs, mais il n'y a pas juste ça.
Ben, même au début des années 2000, quand j'ai fait mes études, le bio n'était pas souvent à la carte. Là.
Donc, je n'ai pas agronome. Je suis technicien agricole. Et puis, expert et enseignant. Là,
Ça fait une quarantaine d'années que tu flirtes avec le bio.
50 ans l'année prochaine.
50 ans. Moi, j'aimerais ça que tu me fasses un peu l'histoire de la place du bio dans le cœur des agronomes. Ou en tout cas, bref, l'histoire du bio des 50 dernières années. Peux-tu me faire ça en 5 minutes?
Bien, le bio, ça a commencé au Québec. Il y avait deux, trois pionniers. Il y avait Pierre Valton, un Français qui était formé en biodynamie, qui est arrivé ici dans les années 50, qui travaillait comme chimiste chez CIL, puis qui avait sa ferme bio à maison, puis okay. Qui était toujours un peu divisé là, entre ces deux métiers. Il y avait Jean Richard, qui cultivait des légumes bio, qui élevait des poules, qui avait du fumier, qui cultivait des légumes bio à la ferme... À Champlain, j'ai oublié le nom de la ferme. Ça, c'était les pionniers. Puis après ça, ben le bio a comme commencé à bouger avec le retour de la terre des années 70. Fait que donc, et la création du mouvement pour l'agriculture biologique. Éventuellement, il y a eu aussi un groupe plutôt d'anglophones en Estrie, là, dont Russell Pocock faisait partie, les agriculteurs écologistes de l'Estrie. Et puis, donc, ça a été comme partie du retour à la terre des années 70. Puis de ça, bien, il y a des gens, la majorité ont fait un retour à la ville, puis il y en a quelques-uns qui se sont professionnalisés, puis il y a quelques-unes de ces fermes-là qui existent encore, puis graduellement, il y en a eu de plus en plus. Dans les années 80, ça a commencé avec des agriculteurs conventionnels qui ont décidé de passer au bio, notamment des producteurs de lait, comme la gang de l'Ancêtre, là. Moi, je suis venu enseigner à ces gars-là ici à la fin des années 80. Et puis, puis dans les années 90, ça a continué. Il y a eu la certification biologique qui est apparue. Et puis, ben aujourd'hui, ben un peu plus que 10% des fermes québécoises sont en bio. Ce qui, un des facteurs qui fait qu'il y en a plus qu'ailleurs, c'est que au moins 80% du sirop d'érable produit dans le monde est au Québec. Donc, il y a beaucoup d'érablières qui sont en bio, mais il y a aussi des fermes maraîchères, des fermes laitières, des fermes de grande culture, puis d'autres productions là, qui sont en bio. Fait qu'il y a probablement environ 2800 fermes qui sont en culture biologique certifiées aujourd'hui.
Puis à l'époque, le développement de l'agriculture biologique, c'était quelque chose qui était scientifique ou c'était carrément une recherche historique sur comment on faisait ça dans le temps? C'était quoi vous planchiez sur quoi? Comment vous faisiez évoluer
le retour de la terre, il y avait bien du monde qui rêvait en couleur, puis il y avait comme tout un mouvement d'autosuffisance. Puis donc, comme je disais, il y en a quelques-uns qui se sont professionnalisés, là, pas 200, là, comme peut-être une vingtaine, là. Donc, les gens de Symbiosis aujourd'hui, puis qui en ont fait une carrière, mm-hmm. puis les autres, ben soit ils ont resté à la campagne, ils gagnaient leur vie d'une autre façon, puis il y avait un jardin, puis quelques animaux, mais c'était pas des agriculteurs, des agricultrices. Fait que le passage d'agriculteur établi en culture conventionnelle au bio, ben ça a été dans les années 80.
Ouais.
Plus à partir du milieu des années 80. En 86, il y a Mgr Drainville, qui était membre du comité des affaires sociales de l'Église catholique, c'est l'aile gauche de l'Église catholique au Québec, là. Il a publié une lettre pastorale sur l'agriculture où il appelait comme à faire une meilleure place aux femmes en agriculture, une place aux jeunes en agriculture, une place à une approche... Lui, c'est un biologiste. Il a fait sa thèse sur l'écologie marine du Saguenay, là, tu sais. 25 ans après, comment il s'appelle le français, Cousteau est venu ici. J'ai découvert qu'il y a un écosystème marin dans le fond du Saguenay. C'est Drainville, il avait publié ça 25 ans avant. Là. Mais l'autre, il avait des grosses bretelles, là, tu sais. Fait que, donc Drainville, il avait fait un appel en faveur de l'agriculture biologique. Puis ça a suscité des réflexions chez les agriculteurs catholiques parce que, Il y avait quand même des catholiques à l'époque. Aujourd'hui, j'ai lu quelque chose il y a 7-8 ans qui m'a frappé. 68 ou 72% des Québécois se disent catholiques, puis 32% croient en Dieu. je l'ai trouvé bonne. mais bon, on est hors sujet, là. donc, dans les années 80, c'était des agriculteurs qui se posaient des questions, puis... Puis moi, le cégep m'a engagé pour enseigner à ces gens-là. Et c'était pas compliqué. Trouve-toi des clients, puis tu vas avoir un job. Fait que moi, je trouvais des clients, puis le cégep, c'est même payé à l'année. Fait que les premiers 7 ans de ma carrière, j'ai fait exclusivement de l'enseignement aux adultes. Après ça, la situation a changé. J'ai commencé à enseigner au département de l'agriculture, mais au département de l'agriculture, le diplôme d'études collégiales a été démarré en 87, l'année avant que j'arrive.
En maraîchage biologique, là.
Ouais.
C'est ça.
Ouais. Bien, c'était fruits et légumes bio à ouais. l'époque, puis après ça, c'était scindé en deux.
Mais il y avait une production animale plus classique pour ouais. les filles et les fils de fermiers, ouais. Fermes laitières, ouais. mettons.
Ça fait que toi, t'étais un preacher, fallait que tu convainques.
Moi, j'étais, au départ, j'étais un activiste, mais je passais 5, 6, 700 heures par année à lire des documents scientifiques.
Ouais.
Fait que, tu sais, moi, l'agronome qui sort de l'université, si tu veux débattre, mon tipit, on va débattre, là, tu sais, même si j'ai pas été à l'université, j'ai aucun problème avec mes compétences et j'ai passé des milliers d'heures de lecture. J'en lis encore l'année passée, je dois avoir lu 400-500 heures de lecture scientifique. Là.
Les agronomes, on doit faire quelques heures de formation continue, là, fait que c'est pas autant d'heures. Puis quand tu rentres dans la cuisine à Denis, sur sa table de cuisine, il y a un livre sur la rhizosphère, il y a un livre sur la microbiologie des sols moderne. Fait que tu sais, c'est des briques là, de science. Puis là, je le dis en français, mais c'est tout des titres en anglais en plus.
Oui, mais c'est des publications scientifiques récentes. Là. Ouais. Là, je me tiens à jour. Ouais, fait que c'est ça. Oui, c'était comme un engagement pour changer des choses dans la société, mais j'ai décidé que ça prenait des compétences pour. Tu peux pas juste. Les agriculteurs, là, tu peux pas prêcher. Là. Les agriculteurs, tu dis. Les agriculteurs, tu peux pas prêcher. Là. Des agriculteurs, c'est pas quelqu'un qui prêchait qui veut. Aide-moi à faire quelque chose pratique sur le terrain. Aide-moi à trouver comment je peux régler mes problèmes.
Concrètement.
Puis, il y a des gens là, qui ont suivi 450 heures de cours avec moi. À la fin, là, qui venaient me voir, disaient ouais, tu sais, dans le fond, là, ce qu'on a fait, là, on a changé notre façon de penser. Donc, si tu veux faire de l'agriculture biologique, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu penses autrement. C'est que tu changes ta façon de penser. Parce que l'agriculture biologique, c'est une agriculture pauvre en produits et riche en informations.
Qu'est-ce que tu dis?
Bien, ça prend des connaissances. Tu sais, en conventionnel, c'est quoi le produit pour tuer telle affaire? OK, ça, tu prends ça, ça tue ça, tu prends ça, ça tue ça. Fait que l'agriculture conventionnelle au 20e siècle, ça a été tu mets une affaire puis tu tues tout le reste alentour. Il y avait des programmes préétablis avec des dates de pulvérisation de pesticides à telle date, telle date, telle date. Tu ne regardais même pas si la bébite était là. Tu mettais le produit parce que une année normale, la bébite va être là à telle date. À un moment donné, ben, on a changé, on a commencé à dépister puis s'assurer que l'insecte était là avant de mettre l'insecticide. Mais il y a eu une époque où on mettait l'insecticide sans même savoir si l'insecte était là. Fait que donc, puis en bio, ben, on a comme certains produits, insecticides, pesticides naturels qui sont acceptés. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, comment il fonctionne cet insecte-là? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il l'attire? Qu'est-ce qu'il repousse? Qu'est-ce qui favorise sa reproduction? Qu'est-ce qui va nuire à sa reproduction? Tu vas aller chercher le maximum d'informations possibles. Puis c'est possible que si tu changes tes pratiques, ben l'insecte va comme te causera plus de problèmes. Donc, au lieu de dire on introduit un produit pour comme tuer l'insecte, parce que c'est un peu la méthode, c'est comme l'aboutissement de mon affaire, c'est qu'au 20e siècle, tu mets une affaire, tu tout alentour, tu tues toutes les plantes sauvages, tu tues tous les insectes, tu mets des fongicides pour empêcher les champignons des maladies fongiques de se développer, et ainsi de suite. En bio, ben on en a des produits comme ça, mais pas beaucoup. Il y a des restrictions. Puis, donc, on va plutôt comme essayer de modifier nos pratiques et nos systèmes pour régler les problèmes, appliquer des méthodes de prévention, du sarclage mécanique par rapport aux mauvaises herbes, de la rotation des cultures. Donc c'est une approche qui est différente, qui demande d'être bien formé et de bien informé.
C'est passionnant pour l'agriculteur. Je veux dire, c'est valorisant, le bio.
Exactement. Moi, j'ai un gars là, que je connais. Là, ils ont une ferme biologique puis ils ont une ferme conventionnelle. Ils ont comme deux entreprises parce que légalement, ça prend deux entreprises. Puis quand j'y avais parlé, il avait suivi des cours avec moi. Quand j'avais parlé du bio, il avait un peu ri de moi parce qu'il y avait un de leurs voisins qui fraudait le bio.
Ah, non.
Qui s'est fait pogner puis qui a comme disparu de la carte. Là, il a été interdit. Là. Mais eux autres, ils riaient, ils disaient, on connaît ça, le bio, tu sais, tu vides ton silo, puis après ça, tu rentres un truck, tu remplis le silo, puis après ça, le lendemain, tu rentres un autre truck, tu revides le silo, tu sais, le gars, il fraudait. Puis
je comprends pas.
Le gars, il achetait du grain conventionnel, il le rentrait dans son silo, puis il le vendait comme grain bio.
Il devenait bio par magie dans le silo.
Puis il s'est fait pogner. Fait qu'il a été comme interdit d'agriculture biologique. Puis ces gars-là, ils rigolaient parce qu'ils le voyaient faire. Puis 3-4 ans après, je l'ai vu, puis il faisait de la culture biologique. J'ai dit, pourquoi tu fais de la culture biologique? Il n'y a pas de défi dans le conventionnel. Ouais. Dans le conventionnel, tu es un exécutant de recettes. En bio, c'est toi qui prends tes décisions, puis c'est toi qui règles tes problèmes. C'est toi qui es confronté. C'est exactement ce que tu disais tantôt. C'est toi qui es comme confronté à des défis. Là.
C'est créatif.
Donc, ça vient te chercher, puis ça te met au défi.
Oui. Moi, je te rejoins parce que c'est ça qui m'a amené vers ce secteur-là. Parce que les recettes, c'est plate à un moment donné, puis tu as quand même une formation en sciences comme agronome. Fait que si tu n'as pas de défi dans ton quotidien, c'est longtemps.
Tu fais juste remplir le fichier Excel.
Ben oui, puis en même temps, c'est mélangé des fois avec du feeling, des expériences. On n'a pas réponse à tout. Ça, tu sais que ça marche. Ça, tu sais que ça marche pas. Mais ça reste que c'est pas... En tout cas, pour moi, le bio actuel est quand même très agronomique et très scientifique. Puis on sort des rendements que c'est vraiment pas gênant. Là.
Fait que... Les rendements sont de mieux en mieux. C'est sûr qu'il y a comme encore des secteurs où le rendement n'est pas au même niveau qu'en agriculture conventionnelle. Des fois, les meilleurs agriculteurs biologiques sont ont des très bons rendements, mais il y en a qui sont moins bons, qui sont de moins bon niveau technique, qui réussissent moins bien. Fait que, mais dans le conventionnel aussi, là, on voit ça.
Ouais.
Au-delà de ça, ben le bio amène toutes sortes d'aspects positifs à la société. Là. Mais c'est plus difficile de faire de l'agriculture biologique. C'est clair. C'est plus difficile, mais en même temps, c'est intéressant. Fait que, moi, je connais du monde que ça les intéresse pas de faire du bio, puis c'est pas illégal de faire de l'agriculture conventionnelle. Là, non, le gars, il fait ses choix, là. Mais bon, il y en a qui s'asseyent en bio, puis qui réussissent pas, puis qui relèvent la barre aussi, là.
Être agriculteur ou agricultrice, c'est un métier complexe en soi, déjà en partant. T'sais. Puis là, quand tu tombes bio, ben, t'es pas à armes égales avec ton voisin nécessairement. Puis tu parlais du retour à la terre des années 70. Les néo-ruraux, ils avaient probablement pas lu autant que tu as lu ou il n'y avait pas de formation développée comme il y en a aujourd'hui. Parce que là, on en vit un retour à la terre depuis 5 ans, depuis 10 ans. Puis là, on parle de gens quand même mieux préparés, peut-être.
Oui, ben écoute, si j'ai bien compris les chiffres de l'UPA, au bout de 5 ans, il y a 50% de retour à la ville.
Qui referme après.
Oui. C'est comme les restaurants. Là. Il y a du monde qui rêve, qui se porte un restaurant puis qui ferme au bout de 5 ans. Il y en a en masse. Puis en agriculture, bio, pas bio, des gens qui se partent des fermes, qui sont pas issus du milieu agricole,
ouais.
Il y en a de maudites gangs qui rêvent en couleur. Là.
Surtout ceux qui sont pas préparés pendant tout.
Puis il y en a qui s'achètent un livre, et waouh, c'est-tu le fun, puis ça va être facile, puis on fait ça. Puis au bout de 3-4 ans, ils ont la langue là, puis ils sont sur le bord du burn-out. Là. C'est de l'ouvrage, tu sais. Fait qu'en plus, il y en a qui font tout à la main. Là. Fait qu'à un moment donné, là, tout faire à la main, là, on n'est pas des Chinois. Là. les Chinois, la culture intensive, là, ils ont des milliers d'années d'histoire. Mais là-bas, tu as comme un employé 20$ par jour. Là. Ici, c'est rendu 20$ de l'heure. Là. Fait que c'est en Inde, tu as un employé pour 1,5$ par jour. Là, fait que il y a comme d'autres réalités ailleurs, là, mais ici, là, c'est tout faire à main, là, c'est pas évident. Là.
Ouais, ça fait mal. Moi, j'ai hâte d'avoir un tracteur chez nous. Là.
Ouais.
T'as-tu des émotions quand tu penses à l'agriculture conventionnelle? Ça te fâche-tu, l'agriculture conventionnelle?
Non. Ce qui me fâche, c'est quand il y a un voisin qui engage un contractuel qui vient mettre un pesticide avec un vent de 40 km/h puis je vois un beau nuage jaune qui s'en vient direct dans la maison. Là. Cet été, j'ai eu une aventure. Là. C'est pas un agriculteur. Là. C'est un gars qui faisait des traitements de bébites. Là. Il est arrivé ici à 7h le matin. Les fenêtres étaient ouvertes. Il est venu, il a pulvérisé tout le tour de la maison sans m'avertir.
De chez toi?
Ah oui, il est parti. Puis à un moment donné... À un moment donné, j'entends du bruit, je sors dehors, je le vois, il était en train de pulvériser. J'avais déterré mon champ d'épuration, ma fosse septique, parce qu'il vient de vider à 3-2 ans. Il était en train de traiter là. je mets mes chaussures, je pars à la bonne course, je l'ai interrompu, il y avait deux tiers de la maison de fête, et il m'attend, il était supposé être au 55 rang 4 S, il était au 55 rang 4 Ouest, puis les fenêtres étaient ouvertes, là. Le gars, ça sentait dans la maison, là, tu sais. C'est un employé, un compétent, là, tu sais, puis il était pas à bonne adresse, puis excuse, là, mais Chris, excusez, là, mais...
Tu peux pas l'enlever.
Ça me choque, là. Mais tu sais, c'est pas d'agriculture, là. Mais j'ai déjà un contractuel, un agriculteur ici de la région qui a mis un pesticide avec un 20-40 km/h, là. Quand t'as tes cartes, tu mets pas tes pesticides avec des 20-40 km/h parce que le nuage jaune, il s'en va à l'horizontale, là.
Fait que le gars qui est venu épandre chez vous, il se souvient encore de toi, là.
Ben, ce jour-là, il a appris la différence entre l'Est et l'Ouest.
Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, sous la cheface, j'ai dit, t'es pas à bonne place, là, puis arrête.
Elles sont tellement pas tombées sur le bon gars, là.
Ben, tu sais. Il a l'air d'être méchant, Denis.
Non, mais tu sais, on a un expert en agriculture bio devant nous. C'est quoi le titre que le gouvernement du Québec t'a donné?
Ouais, ben, ils m'ont donné la médaille de l'Assemblée nationale, là, la même semaine qu'un joueur de football. Comment il s'appelle, le gros, là? Que je peux le dire qu'il est gros, il pèse 100 livres de plus que moi. Là.
Ça, c'est gros.
Duvernay Tardif.
Oui, c'est ça. Okay. Duvernay Tardif, la même semaine. Lui, tout le monde a parlé de lui. Moi, personne n'a parlé de moi. Je ne sais pas pourquoi. Puis, j'ai pas eu de la COVID. Ils nous ont pas invités à l'Assemblée nationale.
Ah, fait que tu n'as pas croisé Laurent.
Non.
Vous n'avez pas pu comparer votre poids.
Non.
Ça fait grossir, les légumes. Ça, Denis me l'a répété souvent.
Ben, c'est sûr que le bio, on a des petits moyens. L'agriculture conventionnelle, les factures d'intrants sont très élevées. Donc, les gens achètent des semences. En bio, ils achètent des semences, mais des fois, ils gardent leurs propres semences. Okay? Ils achètent beaucoup plus de produits. Tous les pesticides et ainsi de suite, là, jusqu'aux enduits de semences néonicotinoïdes et compagnie là, qui sont remplacés par d'autres choses. Là, mais, et donc, ce sont des revenus faramineux à l'échelle planétaire. Donc, Roundup et compagnie. Donc, ces compagnies-là ont d'immenses moyens d'investissement. OK? Pour faire de la recherche, pour développer des nouveaux produits. Et comme développer des nouveaux usages pour leurs produits existants. Donc, c'est des gens qui ont des très gros moyens. L'agriculture biologique, il n'y a personne qui fait des grosses ventes de produits. Il n'y a personne qui a comme des moyens privés pour développer. Donc, tu es dépendant des fonds publics. Puis bien, Harper, il a fermé des bibliothèques puis il a fermé des programmes de recherche. Quand les conservateurs rentrent, ils interdisent aux chercheurs de parler en public, puis ils ferment des programmes de recherche puis ils vident des bibliothèques. Tu sais, fait que donc, moi, j'ai un collègue là, qui a fait fermer son programme de recherche sur Harper, puis il donne des conférences puis il commence avec une photo d'une bibliothèque, les tablettes vides. Fait que tu sais, on a peu de moyens. Puis, tu sais, alors qu'on est face à des gens qui ont des très gros moyens, qui tiennent un discours. Moi, j'ai vu passer, là, quand on est arrivé ici, il y a 30 ans, on a fondé, 35 ans, on a fondé un organisme qui s'appelait le Centre de développement de l'agrobiologie. Il y avait un agronome du MAPAC qui faisait le tour du site. Attention, là, les vautours de l'agriculture biologique, là, ils vont vous manger ils vont vous manger tout rond, là, tu sais, c'est comme, faites attention, ce monde-là, ils sont dangereux, là, tu sais, t'as comme une espèce de, t'as beaucoup d'opposition. C'est sûr qu'en ce moment, c'est rendu tellement gros, l'agriculture biologique, c'est rendu quand même 10% des fermes au Québec, que même Solio, la coop fédérée, là, qui est la plus grosse organisation agricole au Québec,
ouais.
Le plus gros vendeur de pesticides et d'intrants au Québec, ben même eux se lancent dans le bio. Ils sont en train de mettre en place une ferme de recherche pour l'agriculture biologique, tout simplement parce que 10%, ça commence à être des parts de marché. Fait que ces gens-là vont acheter moins de produits, mais ils vont quand même rester des gens qui ont besoin des produits et des services. Donc, même les gros joueurs commencent à développé comme un secteur biologique. Mais l'agriculture biologique va toujours rester moins consommatrice d'intrants que l'agriculture conventionnelle. Puis la recherche publique, bien, il y a pas mal plus de soutien de la recherche publique à l'agriculture biologique qu'il y avait il y a 30 ans ou 20 ans même. Je dirais depuis le début de cette table, ça s'est quand même amélioré. Là, puis, donc, il y a quand même plus de moyens. Mais ça reste qu'on a développé le bio depuis 50 ans avec des bien petits moyens. Là. C'est beaucoup, beaucoup venu de toutes les innovations des agriculteurs. Puis le bio, tu sais, un peu comme tu disais tantôt, là, c'était comme confronté à toi-même puis t'es mis au défi. Ça attire beaucoup des innovateurs puis des gens bien ben allumés. Là. Fait qu'il y a un bon nombre d'agriculteurs très, très innovateurs qui essayent toutes sortes de choses. À tous les ans, nous autres, on s'établit au mois de février, on a un colloque qui s'appelle le colloque bio pour tous. Puis il y a une partie des rencontres, c'est des agriculteurs qui parlent des essais qu'ils ont fait à leur ferme récemment, mettons, depuis un an ou deux. On va beaucoup, nous, faire des on fait des projets qu'on appelle mère-fille. C'est-à-dire qu'on fait un projet plus structuré sur la ferme de l'INAB. Et puis après ça, bien, on a aussi un certain nombre de parcelles sur des fermes, plus à l'échelle là, avec la machinerie de la ferme, puis quelque chose où tu n'as pas un dispositif trop compliqué que tu peux faire avec de la machinerie. Donc, des projets mère-fille. Puis après ça, bien, là, on est dans une période où on fait des portes ouvertes. Là. Fait que dans le prochain mois, je pense qu'on a huit journées portes ouvertes là, de différents projets sur des fermes pour aller voir ce que les gens font. Je parlais du colloque Bio pour tous. Il y a des gens qui organisent des colloques au Québec, puis des fois, tu as de la misère à avoir deux, trois agriculteurs. Là, mm-hmm. C'est surtout des chercheurs puis des gens comme pas mal avancés. Alors que nous autres, on a 80% d'agriculteurs. On travaille... on a développé un lien de travail avec les agriculteurs, puis on travaille directement pour ces gens-là, puis ils viennent à nos activités pour se tenir informés, pour voir l'évolution de la recherche, puis qu'est-ce qui peut leur être utile sur leur ferme. Fait que le CETAB, c'est la plus grosse organisation de ce type-là au Canada, là.
Puis qui était une initiative, tu sais, de toi et Serge du Cégep de Victoriaville, parce que, en tout cas, je me souviens du début des années 2000, je faisais mes études graduées à Agriculture et Agroalimentaire Canada. La bibliothèque, c'était un lieu calme, paisible, tu sais, où tu pouvais continuer tes recherches dans la littérature. Après, tu avais tous les laboratoires qui étaient bien pourvus en équipement, en techniciens. Il y avait les centres de recherche où c'était des fermes de recherche, puis qui ont toutes fermé les unes après les autres, mais... C'était une fierté nationale, mais aussi internationale, avec les publications qui sortaient de là. Mais ils ont sabré dans ces fonds-là. Fait qu'à cette heure, bon, on s'entend, l'INAB, c'est un joyau, c'est un bijou. Le CETAB a pris une croissance fulgurante là, dans les 14 dernières années. Mais c'est comme si le gouvernement canadien, qui est un peu au-dessus de tout ça, qui lui a des budgets, s'en est lâché ça en cours de route. Parce que le CETAB, il n'y a pas de financement récurrent comme un chercheur d'Agriculture Canada pouvait en avoir. Là.
Non. Puis c'est sûr que le CETAB non plus, on publie pas dans les revues scientifiques. Là. Nous, on travaille pour les agriculteurs. Donc, on publie des choses, des documents, des rapports qui sont accessibles aux agriculteurs, aux agronomes aussi. On a comme tout un réseau d'agronomes et de conseils agricoles qu'on a formés, qui participent aussi à nos rencontres. Puis des chercheurs aussi. On travaille en collaboration avec des chercheurs dans d'autres instituts, dans d'autres institutions. On a plusieurs collaborations. Mais on n'est pas dans... Tu sais, le professeur d'université, lui, c'est comme publish or perish. Là, c'est comme... à tous les ans, il faut que tu aies comme quelques publications. Puis quand tu finis ta carrière, bien, il faut que tu en aies au moins 300 pour avoir de l'allure. Là, puis donc, puis peer-reviewed, là, comme ouais. On dit en français.
C'est
comme,
par les pairs.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas la même culture. Là.
Mais vous êtes dans la recherche appliquée au CETAB,
ouais.
Ce qui est important, comme de faire du transfert aux agronomes, tu sais, de deuxième ligne. Mais reste que la recherche fondamentale, on prend l'exemple que tu mentionnais tantôt, que c'est tellement complexe que là, il faut étudier le cycle de vie d'un insecte. Ça devient difficile quand tu redescends en bas de l'échelle à la recherche appliquée de le faire. Tandis que si on a de la science pure ou de la recherche fondamentale, là, on est peut-être capable d'outiller encore plus en comprenant l'insecte, en trouvant l'insecte prédateur ou parasitoïde qui, lui, mange cet insecte-là, ce qui est tout un défi technologique, là, tu sais. Puis pour moi, c'est une des grandes innovations technologiques des dernières années, surtout dans les serres où j'enseigne, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a décidé, bien, qui a trouvé que cet insecte-là mange à l'autre, puis qu'en plus, on est capable de l'élever, de le transporter en plein hiver, puis de le mettre dans une serre, puis qu'il fasse sa job, tu sais. Fait que c'est, en mon sens, c'est ça, c'est tout intégré, ça.
Faudrait que ça se développe au champ.
Au champ,
c'est
oui.
Beaucoup plus compliqué au champ parce qu'en serre, tu es en milieu fermé, oui. Tu peux contrôler ta température, la lumière, la photopériode, tout ça. Au champ, c'est pas mal plus compliqué. Mais il y a des choses qui se développent, mais il faudrait en développer plus. Là.
Ça existe-tu une certification biologique pour agronome? T'sais, les agronomes, ils ont tous la même formation.
Non, parce que c'est pas un produit.
Non, mais je veux bien, mais tu sais, y a-tu des agronomes formés agronomie biologique?
Bon, en ce moment, à l'Université Laval, il y a une prof qui a le laboratoire d'agroécologie, Caroline Alde, je sais pas si ça a joué, là, mais j'ai formé son père, puis j'ai été chez eux quand elle était petite fille. Elle se rappelle de ma visite à la ferme, là. Et puis, aujourd'hui, elle est élevée sur une ferme biologique. Fait que, tu sais, elle travaille vraiment dans le sens de l'agriculture biologique. Il y a un centre à l'Université Dalhousie, à Halifax, un centre national d'agriculture biologique. Il y a des gens qui font des choses dans des universités canadiennes, mais beaucoup plus souvent, c'est sustainable agriculture. Là, ouais. Fait que c'est comme un mix bio-pesticides. Donc, tu réduis les pesticides, puis tu favorises des approches plus, un peu plus biologiques, là, mais c'est pas nécessairement des approches bio-certifiées. Depuis que Caroline Alde est à l'Université Laval, il y a pas mal plus d'intérêt, puis il y a peut-être d'autres profs qui commencent à s'intéresser plus, je présume. Puis il y a des chercheurs un peu partout dans le réseau qui commencent à travailler en bio. Fait qu'il y a plus d'intérêt, je dirais, de la gente scientifique. Nous, on a formé deux cohortes d'agronomes vers 2008 à 2012 à peu près, là, deux cohortes d'une vingtaine d'agronomes, plutôt des conseillers agricoles, qui sont venus ici. C'est quand même une formation assez élaborée, 180 heures. Là, c'est pas, t'as pas juste deux, trois...
Tout
deux,
le monde
trois...
était déjà agronome. Là.
C'était tous des agronomes. Il y avait une couple de techniciens aussi. Mais donc, ces gens-là se sont formés puis ils sont partis un peu partout sur le territoire pour se servir de ça et intervenir auprès de leurs clients. Mais c'est pas nécessairement du monde qui travaille seulement en culture biologique ou seulement avec des gens qui ont des fermes biologiques. Ils vont avoir des mandats en bio, puis le MAPAC aussi, à partir de 1988, donc le MAPAC, le ministère provincial de l'agriculture, pêcherie et alimentation, a mis en place un réseau de responsables d'agriculture biologique sur l'ensemble du territoire, donc avec quelques spécialistes provinciaux, puis un responsable régional dans chaque région, il y a quelqu'un. Puis il y a des régions où ils ont quelqu'un en grande culture, puis ils vont voir quelqu'un d'un fruit, puis ils vont voir quelqu'un d'un légume. Puis... Donc, aujourd'hui, il y a quand même un réseau là, de gens qui ont des mandats en agriculture biologique dans le réseau du ministère de l'Agriculture. Mais le ministère de l'Agriculture, c'est probablement 5 ou 10 fois moins gros que c'était quand j'ai commencé ma carrière. Tu sais, il y avait des bureaux partout à l'époque, là.
Ouais.
Aujourd'hui, ben, il y en a pas mal moins, là.
Puis il y avait des véhicules pour aller sur les fermes.
Oui, puis...
Là, il y en a moins.
Il y avait le droit de sortir, là. Ouais. Parce que, là, cette année, ils ont recommencé à avoir le droit de sortir. Ils ont été 2 ans, trop dangereux de sortir. Ils étaient comme en manque, là.
Mais il n'y a pas d'agronome qui finissent avec la mention bio, mais ça reste les techniciens agricoles qui sortent du cégep, ils ont vraiment le mot biologique, eux autres, sur leur diplôme, là. Puis c'est pas tous des gens qui vont finir fermier ou fermière, puis il y a plein de jobs dans le para-agricole, mais c'est peut-être un agronome à la fois qui suit un cours à la fois, parce que ça pourrait être aussi le cours d'agriculture écologique qu'on a jasé avec Ghislain Jutra, qui a déjà donné, que aujourd'hui c'est Caroline probablement qui le donne, mais que tu fais juste comme éveiller une conscience, amener un peu de connaissances là-dedans, montrer que c'est du sérieux, là. Parce que moi, je dis souvent à blague, c'est basé sur la science, pas sur les croyances. Bien là, on va finir par en convaincre un puis un autre, là, peut-être, là.
Donc, au niveau des grandes institutions, des grandes entreprises, des, c'est encore super marginal, le bio. Moi, je pensais que c'était comme en explosion, mais il y a encore un infime pourcentage de professionnels qui sont dans les grandes institutions puis qui gèrent ça.
Ouais, ben écoute. En tout cas, déjà que 10 % des fermes certifiées bio au Québec, moi, je suis assez content, là. Parce que juste depuis 10 ans, même moins de 10 ans, peut-être en 73, il y en avait 1000, là.
Ouais.
Tu sais, en 2013, il y en avait 1000.
Ouais.
Fait qu'il y a à peu près 8-9 ans, on a passé de 1000 à 2008. Ça a bougé depuis les derniers 10 ans, là. Fait que, moi, la progression, je la regarde aller, je suis content. Oui, on pourrait être à 20, là, pour 100, mais en tout cas, déjà 10, c'est beau. Il y a bien des pays où c'est... Il y a des pays où c'est mieux, mais il y a bien des pays où c'est moins bon.
Le rest of Canada n'est pas à 10 %, là.
Non, sauf que le rest of Canada achète plus de la dépense de ménage consacrée au bio est plus élevée... En Colombie-Britannique, c'est là où c'est le plus élevé, suivi de l'Alberta, suivi de l'Ontario, suivi des Prairies, suivi du Québec, suivi des Maritimes.
On a un peuple de paradoxes.
Fait que le Québec n'est pas le... ici, ce qui manque, c'est la demande de consommateurs. Cette année, la demande de consommateurs a baissé. Là, vous avez sûrement du monde qui vous en ont parlé. Oui, là. Oui.
Par rapport à l'année dernière, où elle avait haussé à cause de la pandémie, entre autres, puis le mangeon local.
Oui, il y a eu un boom depuis 2 ans, puis cette année, là, il y a une baisse. Là, le monde, il ménage, puis il achète pas cher, puis il garde leurs argent pour aller voyager à l'étranger parce qu'ils sont frus.
C'est quoi ton dicton déjà sur le manger local, Denis?
Moi, manger local conventionnel au lieu de manger du bio qui vient d'ailleurs, mais moi, le local conventionnel, le cochonnerie, ça en va direct dans mon puits, là. Fait que j'ai pas pantoute intéressé de manger du local conventionnel. J'en veux le moins possible, là. Avant, là, mon voisin, il était en bio, puis il a changé d'idée, puis il était en conventionnel. Fait que là, j'ai des pesticides là, à 3 mètres de mon jardin, là. Puis l'autre bord de la rue en face, là.
Fait que tu pourrais pas être certifié bio dans ton jardin, vu que t'as pas 8 mètres de distance avec ton voisin.
Non. Mais il fait attention, là, mais...
Le pire avec le conventionnel, c'est-tu le... L'aliment que tu manges ou c'est l'environnement qui est pollué?
Bien, les deux, il y en a partout, là. Tu sais, il y a des méthodes, là. Je faisais du vélo en fin de semaine, là, puis je voyais des traces dans un champ de grains, là, qui se prépare à récolter, là. Puis tu voyais qu'ils venaient d'écraser le champ, là, puis je sais ce qu'ils ont fait, là. Ils ont mis du Roundup, là, du glyphosate, une semaine avant la récolte. Pour uniformiser la maturité du grain, tout le grain va être séché égal. Fait qu'ils font sécher du grain avec du Roundup. Donc, à peu près l'aliment le plus riche en Roundup que tu peux manger, c'est du All Bran, parce que ben le son de la céréale, ils traitent une semaine avant l'école pour faire mûrir le grain, là. Fait que donc, puis ils font la même affaire dans les légumineuses dans l'Ouest, Fait que, mettons, les céréales et les grains conventionnels, là,
C'est une pratique qui a été décriée il y a un an ou deux, je pense, dans les journaux, mais qui continue à être mise de l'avant. Parce que quelqu'un, à un moment donné, a eu l'idée de le faire, puis s'est dit que c'est une bonne idée, ça marche.
Ouais. Ils stressent la plante, puis là...
Non, ils vont la défolier, parce que ça tue. Fait que là, le grain, lui, reste debout, mais si jamais il y avait des ondes dans le champ, c'est jamais mûr au même moment. Fait que là, ben, à ce moment-là, tu viens faire faner ta plante complètement. Fait que tout le monde est mature au même niveau, là. Fait que c'est sec, là.
Comme c'est critiqué, les compagnies disent « Non, vous vous servez pas de ça comme desiccant. Vous vous servez de ça pour tuer les mauvaises herbes qui sont dans le champ une semaine avant l'école. » Mais tu sais, tu traites la culture pareil. Mais tu traites pas pour la faire mûrir, tu traites pour tuer les mauvaises herbes pour que ça soit plus facile avec la moissonneuse batteuse. Moi, ça m'intéresse pas de manger des aliments comme ça. Puis tu regardes faire d'un vignoble, moi, je touche pas. J'achète juste des vins bio puis biodynamiques, là. Je touche pas aux vins conventionnels, là. Tu regardes faire, c'était peurant, là. Ils en mettent. C'est incroyable, là.
Bon, je vais arrêter de boire de la bière.
Bien, il y a de l'excellente bière bio, là. T'as au moins 4 marques de bière bio. Mon garçon est président d'une brasserie qui font de la bière bio, la Chasse Peinte. Il y a la Baldwin, qui sont à
Boucherville.
T'as à Rigaud,
Castor.
Castor.
La Schwepp après.
La Schwepp au Lac-Saint-Jean. T'as
J'ai soif.
T'as une... Ouais, ben, tu peux ouvrir une bière si tu veux.
Elle doit être bio.
J'ai juste la bière bio dans le frigo. Si vous en voulez, ça commence à être l'heure d'apéro, là.
Ah, mais t'as évoqué la biodynamie, là. Puis bon, finalement, on a parlé plus de l'agriculture bio au sens large, mais ça a toujours pris une place importante dans ton cœur, là. Tu m'en as toujours parlé.
Dans mon cœur...
Non?
C'est pas une affaire de cœur, là. C'est... en tout cas, la biodynamie, c'est une méthode très particulière qui intéresse seulement certaines personnes. Il y a au Québec, il y a quelques fermes en biodynamie. Mais ils réussissent à faire des choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres méthodes agricoles.
Comme?
Fait que ça m'a... Ben, par exemple, moi, j'ai vu un essai où on a fait pousser du blé sous une ombrière.
OK.
OK? Donc, du blé sous une ombrière, ça manque de lumière.
Ouais.
Donc, la tige manque de force.
Ouais.
Et le blé est verse.
Ouais.
Donc, on a traité avec un apport de silice pour essayer de compenser le manque de lumière, puis le blé, il est resté debout.
OK. En station de recherche, ça,
c'est... C'était des essais de Maria Thun,
OK.
Qui est une chercheure privée, là, qui est morte aujourd'hui, mais qui a fait des recherches. J'ai été 5-6 fois voir cette station de recherche, là. Elle avait 8 hectares de parcelles, là. Et puis, j'ai vu des choses là, puis j'en ai vu ailleurs, puis ben moi, ça m'a toujours intéressé, là.
C'est quoi, c'est la biodynamie?
Ouais, Rudolf Steiner, en tout cas, c'est comme, je veux pas comme partir là-dessus, là. C'est un trip ésotérique, là, puis...
Ouais, c'est ça, c'est les agriculteurs qui font de la biodynamique, c'est ceux qui font aussi du yoga, là.
Pas nécessairement. Là,
attends, là, nos enfants, ils vont dans une école alternative.
Ah oui, mais c'est pas des plans de maïs, mes enfants.
Oui, mais ils sont à l'école Steiner?
Oui.
Bon, ben c'est ça. La biodynamie, c'est l'agriculture de Rudolf Steiner.
Moi, je peux pas les chicaner quand c'est une pleine lune, là, genre.
Non. Dans l'une montante, tu peux leur donner une claque en arrière de la tête.
Je connais à peine la pédagogie Waldorf, mais... ça ne m'en dit pas plus sur la biodynamie. Je sais qu'on suit le cycle de la Lune. Y a-t-il d'autres choses?
Oui, bien, je dirais que ça, c'est secondaire, là, la Lune. Le principal, c'est surtout des préparations qu'on met comme activateur des sols, de certains processus dans le sol. Supposément, selon les idées de Steiner, pour comme renforcer la capacité du sol à être influencé par le cosmos. Mais en tout cas, sur le plan pratique, mettons Romané Conti, là. Un livre brésilien du 19e siècle, puis il parle de Romané Conti. Romané Conti, ça doit se vendre à 5, 6, 7, 8 000 piastres la bouteille, là. Ils sont en biodynamie, là. C'est pas écrit sur la bouteille que c'est en biodynamie, là, mais c'est parce qu'ils sont en biodynamie parce que la qualité monte un peu quand tu fais ça, là, t'sais. Fait que c'est une approche, je dirais, qui fait une grande place à l'amélioration de la qualité des aliments. Sauf que le principe de base dans la société, de la qualité d'un aliment, tu manges puis tu t'en vas pas à l'hôpital après souper, là, t'sais. C'est comme ça, là, t'as un aliment de qualité. Tandis que dans le vin, le monde sont plantés là, puis ils brassent le vin, puis ils parlent pendant des heures de qualité, là, t'sais. Fait que dans le domaine du vin, on accorde une grande importance à la qualité. Tout le monde sait que ça, c'est une bouteille de piquette, puis que ça vaut 100 piastres la bouteille, mais ça vaut pas 1000 piastres la bouteille, puis ça vaut 1000 piastres la bouteille, puis il y a du monde qui va payer 1000 piastres pour, puis ça vaut 5000 piastres la bouteille. Tu sais, il y a comme des critères assez objectifs de qualité qui fait que le monde, ils vont payer, puis ils sont pas nono, là. Le monde qui paye 5000 piastres pour une bouteille, bon, moi, j'ai pas le moyen, là.
Ouais.
Puis j'ai pas le moyen de... Malgré que j'ai eu une bouteille en cadeau, je me suis rendu compte qu'elle vaut entre 1000 et 2000 piastres. Dernièrement, je ne le savais pas. J'ai fait une petite recherche. Mais...
Mais il n'y a pas ça avec le verre de lait.
Mais, puis... donc, dans le domaine du vin, les gens ont un intérêt pour la qualité. Fait que je dirais que la biodynamie, ben les gens qui s'intéressent à ça, c'est parce qu'ils essayent d'améliorer la qualité, puis... Je dirais pas que tout le monde réussit aussi bien, mais il y en a beaucoup qui réussissent à faire de la très bonne qualité.
OK.
Fait que donc, puis dans les aliments aussi, moi, je pense que c'est une façon de faire de... C'est une méthode d'agriculture biologique, mais qui permet peut-être de faire des choses un peu différentes, puis qui donne, en général, quand c'est bien fait, c'est toujours ça, c'est... Si c'est fait par bric-à-brac par quelqu'un qui travaille pas bien, ça ne t'amènera pas bien plus loin, mais si c'est bien fait...
Ça doit être pour ça que j'ai essayé et que je trouvais que ça ne donnait rien.
Ouais, ben là...
Ton jardin, ça. Ouais.
Ben, l'agriculture, moi, mon discours, c'est que c'est à peu près aussi compliqué que la médecine. Tu sais, c'est compliqué, l'agriculture. Ça prend comme toute une série de métiers. Ça prend comme plusieurs sciences. Ça prend une intuition du tonnerre. Ça prend. C'est très, très compliqué de faire de l'agriculture. Puis, tu sais, au Québec, là, comme. Moi, je suis plus vieux que vous autres. Là, j'ai été à l'école des années 50 puis à l'université des années 60. Là. Mais au Québec, dans le temps, c'est comme. Toi, t'es le gnochon de la famille. Tu n'es pas capable d'aller à l'école. Là, tu vas garder la terre, puis tes frères, ils vont aller à l'école. Puis, eux autres, ça va faire des notaires et des avocats. Là, ou des curés. Là, fait que c'était comme ça l'attitude, puis ben c'est bien de valeur, mais tu sais, non, là, l'agriculture, là, ça prend du monde brillant, c'est complexe, puis moi, le conventionnel bio, les agriculteurs, je les admire, là, parce qu'ils travaillent, tu sais, le matin de Noël, là, puis le matin du jour de l'an, à 5 heures, le train se fait en face de chez nous, ici, là. Fait qu'ils sont tout le temps à l'œuvre. C'est sûr que des fois, ils viennent tanner en vieillissant, là, puis ils vendent deux vaches, là. Il y en a, en tout cas. Ou ils installent des robots. Moi, je les admire, les agriculteurs, là. Ils ont un gros stress. Ils sont pris avec des conditions météo qui leur compliquent la vie énormément. Fait qu'ils sont capables de... Puis ça, c'est une petite ferme, ça vaut 2-3 millions aujourd'hui, là. Fait que le stress financier, la charge financière, tout ça, je les trouve admirables, ces gens-là. Là.
Dans 30 ans, ça va être quoi, le bio?
Bien, je dirais, il y a comme... Tu sais, le bio, c'est pas une affaire, là. C'est relativement diversifié. Ce qu'on a vu émerger depuis 30 ans, à peu près, c'est un bio-industriel, là, notamment américain. On en voit au Québec, là, tu sais, dans le fond, là, tu sais, tes copains, c'est un 1000 hectares.
Ouais.
Bon, c'est 400 hectares de légumes, là, ça commence à... Je sais pas s'ils font bien de la gravaire là-dessus, là.
Oui, ben ouais. Oui, tu as enseigné, fait qu'il t'a écouté.
Ouais. Fait que, tu sais, au Québec, il n'y a pas beaucoup de très grosses fermes. En Californie, tu as des fermes de 40 000 acres, là. Moi, j'ai visité quelqu'un, là, qui était spécialisé dans les fraises bio, là. Puis je m'en allais voir une ferme de 100 hectares, là. Puis, ah oui, le petit bio là-bas, là, tu sais, pour lui, c'est un petit, là, tu sais, c'est un petit joueur. Avant ces gens-là, il y en avait pas qui avait 100 hectares de légumes, là. Fait que, tu sais, les plus gros avaient 20, 25, 30 hectares, là, peut-être, là.
Ouais. Mais ça nourrit beaucoup de monde aussi, ces gens-là. Tu sais, ouais, c'est beaucoup de familles d'un coup, là, dans un sens, là.
Ouais.
Puis dans un secteur d'activité, des fois, qui peut être ingrat, parce que le climat va influencer beaucoup. Tu travailles avec du vivant, c'est tout des produits périssables. Les marges de profit sont pas si intéressantes que ça, là. Je jasais avec eux l'autre fois. Ils se comparaient avec d'autres amis qu'eux autres travaillent dans le domaine de la construction, là. Quand tu fais 20-25 % de profit sur un contrat de 100 millions... c'est pas le même game, là. Puis ça, ouais. Aussi, c'est des entrepreneurs qui gèrent des dossiers, qui gèrent des projets, là.
Ouais.
Fait que c'est...
Bon, les marges en agriculture ont rien à voir avec, comme dans bien d'autres domaines d'activité économique, là.
Et ça, c'est aussi compliqué que la médecine, mais c'est même pas que le salaire.
Ouais, non. Mais tu sais, l'agriculteur, traditionnellement, on dit l'agriculteur, il vit pauvre, il meurt riche.
Ouais, c'est un club de millionnaires cassés.
C'est ça, c'est comme... Quand il sort ses billes, là, quand il liquide, puis qu'il vend son quota, puis... qui vend ses actifs, là, il ressort des gros montants, puis il prend sa retraite. Ou bien, il essaye de vendre à ses enfants, puis c'est compliqué, là. Il y a des, si tu vends, t'es imposé. En tout cas, c'est pas évident, là.
Je vous relance avec la même question.
Mais je reviens, là, avec l'avenir. Mais il y a du bio-industriel qui a émergé. On voit une tendance petite ferme manuelle. Moi, je reste sceptique parce que je l'ai essayé. Je me suis planté comme il faut. Je me suis ramassé avec des maux de dos que je soigne depuis 35 ans. Là. Je l'ai fait, là, le trip. Là. Tu sais, je travaillais 16 heures par jour, 7 jours par semaine à l'époque. Là. Fait que donc, puis c'est très dur physiquement. Tu vieillis vite. Les agriculteurs, ça prend leur retraite assez jeune. Ben, en tout cas,
ça souvent. Dépend lesquels.
Oui, mais souvent, il y a bien du monde qui a rendu passer, rendu à 60 ans, ils sont pas mal maganés, là. Fait que donc, ils veulent arrêter un peu, puis... Il y en a qui continuent. Là,
mais tu ne crois pas tant que le bio, à l'avenir, il y aura...
Il n'y aura pas un million de petites fermes de demi-hectare. Là, tu sais, rêvez pas en couleur. Là, tu nourris pas, c'est de l'agriculture de créneau. Il faut que tu fasses des affaires chères pour du monde qui sont prêts à payer le gros prix. Puis tu peux pas... Il y a plein d'affaires que tu peux pas faire sur ces fermes-là parce que ça prend trop de place, c'est pas assez rentable. Il n'y a pas de patates, il n'y a pas de courges, il n'y a pas de ci, il y a de ça. Fait que tu te spécialises dans des affaires chères, là. Fait que, puis c'est très dur. Tu sais, du monde qui arrive au mois d'octobre, la langue à terre, là, puis moi, je suis allé chez quelqu'un, là, au printemps, puis le gars, ils ont pris congé cette année parce qu'il est sur le bord du burn-out, là. Fait que, tu sais, c'est dur, là. Fait que, donc, il y a beaucoup de monde qui abandonne. Eux autres, ils sont pas sur toutes les tribunes à se vanter, là. Fait que ceux qui réussissent, on les voit, mais tu sais, ici, il y en a un qui a vendu il y a 2 ans, là, tu sais, il a fait ça 5-6 ans, puis c'est tanné, puis il a vendu, là, c'est pas évident, là. Non. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui rêve en couleur, puis qui vont comme laisser une bonne partie de leurs économies là-dedans, puis je pense pas qu'il va en avoir 5 000 de ça dans 5 ou 10 ans, là.
Ça va prendre un mélange de toutes ces formules-là, peut-être?
Ouais, ben c'est ça. Le bio, c'est assez diversifié. Il y a des approches. Il y a des gens qui critiquent le bio, notamment là, toute l'approche d'agriculture de conservation où on travaille peu ou pas les sols, où on essaye de laisser des matières organiques en surface. On cultive beaucoup d'engrais verts. Il y en a qui rentrent des animaux sur les fermes. Moi, un modèle avec des animaux sur une ferme, je trouve que c'est un bon modèle, là. Je trouve que les végans et tout, ils rêvent en couleur pas mal, là, tu sais. Si tu veux faire total végan puis d'animaux, ben sors les engrais chimiques, puis le reste suit, là, tu sais, les autres produits chimiques vont suivre, là. Ça fait que, tu sais, j'ai des végans en Angleterre, pas le droit de faire de compost de feuilles, que peut-être qu'il y a des crottes de chien dans les feuilles que tu vas ramasser, là. Ça tombe pas mal maniaque, là. Fait que, en tout cas, fait que moi, je pense qu'il va y avoir une grande diversité de modèles. Puis moi, j'ai rien contre, là. Il y a des modèles que je trouve peut-être plus adaptés, qui ont plus d'avenir. Il y a des modèles que j'étais sceptique au début, j'étais un peu moins sceptique. Notamment, ce qui est arrivé, c'est que le prix des légumes a beaucoup... Depuis 20 ans, le prix des légumes a monté bien plus que les autres produits de consommation. T'sais, moi, un fruit que je payais 69 cents à la manne, ben 10 ans plus tard, je le paye comme 4 piastres et demi, là, tu sais. Fait que, donc, bon, c'est pas tout qui a monté aussi vite, là, mais il y a quand même, les aliments frais ont monté beaucoup, ce qui fait que c'était pas faisable, là, 20 ans, puis aujourd'hui, c'est faisable de gagner sa vie en travaillant à main. Mais c'est très dur, puis il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont bien réussir, puis il y en a qui...
vont se casser la gueule.
Qui vont se casser la gueule, là. C'est clair. Fait que moi, je pense pas que c'est le modèle d'avenir. C'est un parmi d'autres. Il y en a qui vont réussir, ça a sa place, mais moi, je pense pas que c'est le modèle, là, tu sais. Puis en quelque part, je pense que si on veut vraiment nourrir Montréal, ben il faut qu'il y ait de plus en plus d'agriculteurs conventionnels qui passent au bio, qui lâchent le conventionnel, puis qui passent au bio, puis qui sont capables de sortir du volume pour nourrir Montréal. Il faut aussi que Montréal soit prêt à acheter du bio. Il
ouais.
faut que les Québécois soient prêts à acheter du bio. Comme je disais tantôt, il y a sur 6 marchés régionaux, tu sais, mettons, sur 5 grands marchés régionaux canadiens, ouais. Bien, le Québec est au 4e rang, là. Fait que t'as l'Alberta, le BC, puis l'Ontario, puis les prairies en avant. On est au 5e sur 6. Fait que donc, puis c'est ça. Faudrait que les consommateurs soient plus prêts à en acheter. Même en Europe, il y a comme une espèce de plafonnement de bio depuis une couple d'années, je pense, là.
Fait que tu y crois au bio de grande surface?
Bien, ça a sa place, parce que le monde... tu sais, moi, c'est comme... t'as-tu déjà comparé des prix puis acheté le moins cher à l'épicerie?
Pas depuis que je mange bio.
Ouais, mais tout le monde répond oui.
Ouais.
OK? Puis moi, tout, je l'ai fait. Puis tout le monde dit oui, j'ai comparé les prix puis j'ai acheté le moins cher. Bien, C'est ça qui encourage l'industrialisation du bio. Si tu veux rien que de l'artisanat, là, hein, de la vaisselle artisanale, là, ben c'est 25$ le morceau, là. Hein, ou 20$ le morceau, là. Puis si tu vas avoir une batterie de cuisine pour comme 192$ et 89, ben tu vas acheter de l'industriel.
Ouais.
Tu sais, fait que donc si tu veux du pas cher, tu vas acheter de l'industriel. Ça, c'est le modèle Henry Ford. Puis l'industrialisation de l'agriculture, les gouvernements ont mis en place des politiques. Faut pas que la bouffe coûte cher pour que le monde ait de l'argent pour faire virer l'économie. Là, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça la politique qui a été mise en place. Donc, on a industrialisé l'agriculture pour que ça coûte pas trop cher, tu sais, que la part des revenus qui va à l'alimentation soit faible. Là, ben il y a des affaires qui sont échappées, comme le prix du logement, tout ça, ça n'a plus d'allure, là, tu sais. Moi, je connais du monde qui ont payé une maison 150 000 $ ils ont mis 100 000 $ de rénovation, là, ils demandent 750 000 pauvres, là, tu sais, c'est comme... C'est rendu malade, là. Fait que les jeunes sont comme dépourvus face à ça. Mais le principe de dire « je ménage sur la bouffe pour mettre des options sur mon char », c'est encore très présent dans la société. Fait que tant qu'on va avoir cette philosophie-là, ben ça va prendre du bio-industriel. Parce que le bio-industriel, bien, il n'est pas donné le bio-industriel. Mais il est capable, tu sais, il est capable de rentrer des vannes, là, au supermarché, là, tu sais. De rentrer des il y a des vannes qui rentrent de Californie, puis ça repart par palette d'un supermarché. Fait que à côté de ça, tu vas avoir le créneau de la petite ferme manuelle, vente directe, si ça. Mais cette année, ben ça régresse, là, tu sais. Ils ont de la misère à vendre leurs abonnements de panier. Il y a du monde aussi qui se tanne du panier, là, tu sais.
Ouais, mais quand l'économie chancelle puis qu'il y a des risques d'inflation, ben là, c'est là que les gens regardent encore plus combien leur coûte leur panier d'épicerie, là.
C'est ça.
Parce que la dette de la maison, souvent l'auto, c'est les deux principales dépenses des ménages.
Ouais.
Ça, on reste coincé avec, là.
Ouais.
Puis en région, c'est pas toujours évident, tu sais. Dans les serres, moi, où j'enseigne, on fait pousser des tomates heirloom parce que c'est le nouveau standard, mais... T'as 50 % du rendement de l'autre tomate à côté.
Ouais.
Fait qu'il faut que t'en vendes le double pour couvrir tes frais qui sont les mêmes, là, à peu près, là.
Ouais.
Puis là, ben, à 3 piastres le fruit, 4 piastres le fruit pour une seule tomate,
ouais.
Y en a que ça, ils font le saut, ça va être beau, là. Ils ne mettront pas dans son eau aux tomates à ce prix-là, là.
Ouais.
Ça revient cher, là.
Moi, je passe, je check les tomates déclassées dans le frigo, là.
Celles qui ont des pocs.
Avec mon salaire de prof.
Bon, ben d'abord, est-ce que l'agriculture bio, est-ce que c'est pas le jardinage qui va venir? Parce que t'as la tomate tu parles, là, moi, chez nous, elle me coûte rien de plus à faire, là.
Oui, bien...
On mangera pas de la même
nécessité. Oui, mais on est peut-être dans une bulle, puis tu sais, peut-être là où je rejoins Denis, c'est l'histoire de... La force des épiceries, c'est qu'ils sont toujours là, puis sont ouverts à des heures pas possibles.
Moi, ça me prend 5 à 20 heures semaine, là, pour m'occuper de mon jardin. Tu sais, j'ai 2-3 semaines dans l'été où j'étais obligé de mettre 20 heures sur le terrain ici, là.
C'est l'ouvrage.
Mais 5-6-7 heures semaine, là, il y a une maudite gang qui mettront pas ça. Tu sais, ils ont comme d'autres priorités. Ils ont des mes enfants sont élevés, puis... Ils sont partis, là, mais...
Ou une job de 8 à 5 avec du trafic à faire entre les deux déplacements. C'est là que l'épicerie est sur ton chemin, t'arrêtes, puis tu prends ce que t'as besoin, puis c'est réglé, là.
Il y a pessimiste, les gars.
Ah, ben non, là, t'as raison.
Non, mais cherche.
Il y en a. Écoute, quand j'étais jeune, là, toutes les fermes, il y avait un jardin, là. Là, c'est comme une ferme sur 10 qui a un jardin.
Ah, mais il y a une ferme sur 10 qui est ouverte.
Mais la voisine, elle a un jardin pour amuser ses enfants, là, je les coach un petit peu, là, mais après ça, le prochain jardin, ici, dans le rang, sur le côté gauche, là, il y a 3 jardins d'ici au coin, là. Il y a 18 maisons, là. Puis c'est le côté droit, là, qui a des jardins, là.
Dans mon quartier, on n'est pas nombreux. Depuis que PA est parti, là...
Il n'y a pas de... Quand j'étais jeune, il y avait des jardins, là.
Pour se nourrir.
Chez nous, les voisins, il y avait tous des jardins, là.
Ouais.
Il n'y en a plus de ça, là. Il y en a 1 sur 10 qui fait un jardin, 1 sur 20.
Bon, c'est quoi le futur de l'agriculture biologique?
C'est quoi le futur du balado, une chance qu'on s'aime? Parce que là, si on est comme à Semaine verte, il y a un moment, ça va bien, là, dans le milieu du reportage, ça va moins bien, mais à la fin, il faut trouver une suite
faut
heureuse.
Que ça finisse bien, cette histoire-là.
Oui, bien, c'est parce que là, on n'a pas parlé de jardinage, là, on n'a pas parlé de culture, on a parlé des sols, on a parlé de ça, là, mais tu sais, bon, en tout cas, on parle d'agriculture biologique générale.
Tu nous as nourris.
Moi, tu sais, écoute, il va y avoir plusieurs modèles de fermes selon... T'sais, on vit dans une société libre. Fait que selon les approches qui vont intéresser les gens qui en font, là. Fait que, mais moi je fais pas de croisade, là. Moi, viens me voir, tu veux faire de l'agriculture biologique à n'importe quelle échelle, m'essayer de t'aider. OK? Puis c'est toi qui es maître de tes décisions. Moi, je suis un enseignant, je vais te donner des cours. Après ça, ben tu feras ce que tu voudras chez vous. Fait que, mais d'après moi, il va y avoir plusieurs modèles qui vont se développer. Mais je pense pas qu'on s'en va vers une affaire que ça va être des artisans qui vont nourrir le monde. Parce que combien d'artisanat t'achètes dans l'année, toi, de le reste de ta consommation à part de la bouffe bio, là? Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que l'artisanat, ça reste un créneau de luxe, là. Fait qu'il n'y aura pas tant que ça, l'artisanat.
On est à 10 % des fermes qui sont bio. Dans 30 ans, il y a combien de pourcents?
Je sais pas. J'aimerais bien ça être au moins à 20-25.
20-25?
Tu veux dire dans 30 ans?
Wow.
Ouais.
Bien, moi, je travaille pour que dans 3 ans, que toute l'agriculture soit... Dans 300 ans, que toute l'agriculture soit biologique. Tu sais, qu'on renverse ça de bord, puis qu'on se dise, bon, au 20e siècle, on a fait des conneries, puis, tu sais, on développe comme une nouvelle approche. Mais j'ai commencé à parler tantôt de l'agriculture de conservation. Le problème, c'est qu'eux autres, ils ne peuvent pas se passer de pesticides, notamment d'herbicides. Fait que, donc, ils ont développé des méthodes comme plus écologiques. Il y en a même qui disent qu'ils sont meilleurs que le bio, mais ils mettent du Roundup. Puis, ils utilisent du Roundup Ready, puis ils en masse qu'ils ont mis des traitements de semences, des néonicotinoïdes, etc. Okay. Tu sais, tout le monde mettait ça de toute façon, là.
Ouais.
Fait que, en tout cas, c'est quand même positif, là. C'est des gens agriculteurs conventionnels.
Il
fait la même affaire à 2h du matin, là, quand je couchais dans ma chambre en haut. Là.
C'est le même, hein? Tu reconnais le son du moteur?
Ah, c'est en tout cas des tarlats, là, il y en a ici. Bon, tu couperas ça?
Non, tout le monde le sait qu'en campagne.
Il y a des tarlats. fait qu'on pourrait dire, on change de sujet, puis on parle d'agriculture, puis de ce qui est important en agriculture. Là, dans le fond, c'est comme un peu le côté historique. Là. Moi, je parlerais bien des sols, je parlerais bien de... Je prendrais peut-être un verre d'eau, puis on se fait une deuxième émission, si vous voulez. Voulez-vous que j'aille chercher une bière?
Ah oui, donc?
Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.